Radio Okapi.
Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée que vous présente Belinda Boussouma. Tout de suite, le sommaire. L'insécurité au Nord Kivu et d'autres questions au menu des échanges hier soir à Goma entre une délégation de la SADC et le comité provincial de sécurité. Le chef de la délégation de la SADC promet des pistes de solutions aux préoccupations soulevées sur place. Congo central, l'absentéisme de certains élus aux plénières de l'Assemblée provinciale décrié par le député Mambo Luamba, cet élu parle de violation de l'article 103 du règlement d'ordre intérieur de cette Assemblée provinciale. Et puis, lutte contre la déforestation et la destruction de l'environnement par l'utilisation des briques en terre crue pour les constructions. Le Bureau diocésain de développement et l'Institut français de Lubumbashi s'y emploient, à suivre dans notre dossier de ce midi. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu où la délégation des experts militaires de la SADC, conduite par le général tanzanien Ramazani Kimweri, s'est entretenue hier soir à Goma avec les membres du comité provincial de sécurité conduit par le gouverneur Paluku. Au menu des discussions, la situation sécuritaire dans la province, l'évaluation du travail des contingents de la MONUSCO ainsi que les élections. Selon le général Kimweri, les préoccupations et recommandations formulées au cours de cette rencontre vont être rapportés aux organisations régionales afin de trouver des pistes de solutions aux problèmes qui affectent actuellement la République démocratique du Congo. Gisèle Cage pour des précisions.
Sur le plan sécuritaire, le gouverneur Julien Paluku dit avoir expliqué aux experts militaires de la SADC les menaces qui pèsent encore sur le Nord Kivu dues à la présence des rebelles ougandais ADF, des rebelles rwandais FDLR ainsi que des groupes armés locaux. Pour ce faire, Julien Paluku dit avoir proposé que le budget des contingents de l'ONU en RDC puisse être revu afin de l'orienter à la formation et à l'équipement des forces de sécurité congolaises. Julien Paluku Kaunga.
Nous avons demandé qu'il y ait au niveau de la communauté internationale examine une possibilité de réduire tous les budgets des forces des Nations Unies sont dans notre pays pour qu'on concentre ces budgets-là à la formation de notre armée, de notre police, pour que le jour où les forces armées onusiennes vont quitter ici, au moins nous sentions que les budgets qui avaient été affectés pour leur défense ont été réorientés vers la formation, la modernisation et l'équipement de nos forces de défense et de sécurité.
Le comité provincial de sécurité a demandé également que les organisations régionales puissent insister sur l'application des accords cadre d'Addis Abeba. Ces accords du 24 février 2013 stipulent notamment que les pays de la région ne doivent pas héberger ni fournir une protection aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou crimes d'agression. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Revenons sur l'important dispositif policier observé lundi dernier dans la ville de Lubumbashi. Le commissaire provincial de la police dans le Haut-Katanga explique que c'était pour empêcher la manifestation du rassemblement prévu ce jour-là. Pour le général Jean Bosco Galenga, la manifestation n'a pas été autorisée. En outre, il indique que les alentours de la résidence les résidences privées du coordonnateur provincial du RASOP où était déployée la police font partie de l'espace public. Le général Galenga explique au micro de Paul Amunanga.
Le rassemblement sait que la police n'a pas un pouvoir de réglementation. La police exécute les lois et les règlements. Et autoriser une manifestation ou ne pas l'autoriser, la postposer ou la décaler de quelque temps tient du pouvoir de réglementation qui n'appartient pas à la police. Et lorsque une manifestation ne vous a pas été autorisée, la police en tire simplement les conséquences et ceci est connu. Les alentours de la résidence privée du coordonnateur du rassemblement font partie de l'espace public, exactement comme le reste de la ville. Et quand vous voyez, la police, elle n'est pas que déployée là-bas. La police a été déployée un peu partout dans la ville, simplement parce que nous connaissons à peu près les modus operandi de nos amis. Lorsqu'ils ont programmé de faire quelque chose, ils s'en suivent parfois de casse. Et la police, à titre préventif, se déploie. Et il ne faut pas avoir peur de cette police qui se déploie. Il y a les mauvais citoyens qui craignent la présence préventive de la police.
Au lendemain de la présentation par le gouvernement congolais des vidéos montrées comme celle de l'exécution des deux experts de l'ONU et de près de 40 policiers par des miliciens camerounais Sapou, la ZADO réagit. Dans un communiqué publié hier, l'Association africaine des défenses des droits de l'homme s'est dit très préoccupée par, je cite, les immixtions à répétition du gouvernement de la RDC dans l'administration de la justice. Fin de citation pour la ZADO. Cette immixtion de l'exécutif dans l'administration de la justice est une véritable obstruction à la conduite des enquêtes indépendantes et à la manifestation de la vérité. Jean-Désiré Kanyama nous en dit plus.
Dans son communiqué, la ZADO rappelle qu'au courant du mois de février 2017, une commission constituée de hauts magistrats militaires a été mise en place pour clarifier les massacres de populations civiles survenus dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï oriental. Cette ONG rappelle également que lors d'une interview accordée à Radio Kapi, le 22 février 2017, le porte-parole du gouvernement avait lancé un appel à témoins, invitant quiconque à Mbujimayi ou à Kananga était témoin ou victime des faits à les dénoncer auprès des auditeurs supérieurs, près des cours supérieurs militaires de Kananga et de Mbujimayi pour aider à la manifestation de la vérité. Contre toute attente et en violation du secret de l'instruction préparatoire, devant le parquet, auditorat et du principe de la présomption d'innocence des personnes mises en cause consacrées par l'article 17 de la Constitution, le lundi 27 avril 2017, le ministre Lambert Mende a divulgué la vidéo d'assassinat des deux experts de l'ONU par des individus qualifiés de miliciens de Kamuina Nsapu, indique le communiqué de cette ONG. Pour la ZADO, le fait que cette vidéo, qui devrait être mise à la disposition de la justice militaire, conformément aux principes indiqués ci-dessus, soit commentée et rendue publique par un membre du gouvernement qui n'est pas membre du pouvoir judiciaire, décrédibilise l'enquête judiciaire en cours.
Par ailleurs, la ZADO demande au président de la République de veiller à ce que la justice soit administrée conformément à la Constitution et aux lois de la République. Au Conseil de sécurité, cette ONG de défense des droits de l'homme l'invite de continuer les pourparlers avec la RDC pour la mise en place d'une commission indépendante devant enquêter sur les massacres perpétrés dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï oriental. Direction le Congo central, précisément à l'Assemblée provinciale où le président de la commission politique administrative et judiciaire condamne l'absentéisme de certains élus provinciaux aux plénières. Au cours de la plénière d'hier à Matadi, Mambo Luamba a affirmé que certains députés provinciaux n'ont jamais mis le pied à l'Assemblée depuis décembre dernier, un comportement qui, selon lui, viole l'article 103 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Congo central. Mambo Luamba, président de la commission PAJ à l'Assemblée provinciale du Congo central, joint par Guy Roger Nyampala.
L'article 31.5 qui oblige au président de faire respecter les lois du pays, notamment les règlements de l'intérêt, la constitution et les autres lois au sein de l'hémicycle. Et parmi les lois à pouvoir faire respecter, il y a les règlements de l'intérêt. Si dans l'article 103, l'article 103 oblige à tout député de se présenter au siège plénière, et il y a des sanctions prévues par l'article 103. Si il y a un député qui s'absente, on a un quart de séance plénière, perd son mandat.
Pourquoi le bureau ne contacte pas ses élus provinciaux?
Le règlement ne permet pas aux membres du bureau de contacter. Sauf que le règlement prévoit, s'il y a eu une mauvaise décision au niveau du bureau, le règlement prévoit à ce député d'adresser un recours au bureau. Il n'y a pas l'inverse.
Et quelle sera la suite?
Non, déjà, il y a des risques et circuits dans la salle, on a été de signer. On va contacter jusqu'au 28. Si pendant cette période, jusqu'au 31 décembre, il n'y a plus de plénière. Donc nous allons considérer qu'il y a eu 4 plénières et on divise, nous contactons les 1 quart et on les invalide.
Au cours de la même plénière, les élus provinciaux du Congo central ont aussi examiné la question sur le fonctionnement des associations sans but lucratif dans cette province. Et puis cette réaction du collectif des délégations syndicales nationales de l'ex-ONATRA, de l'Office congolais de contrôle, de la DGDA, de l'OGFREM et des lignes maritimes congolaises en rapport avec le décret du Premier ministre sortant, Sami Badibanga, autorisant l'importation en République démocratique du Congo des véhicules des 20 ans. Pour ce collectif, c'est un acte salvateur pour les populations et pour les services et établissements publics œuvrant dans la province du Congo central. Leur déclaration a été rendue publique hier à Kinshasa au cours d'un point de presse. À en croire Iloufane Djoli, porte-parole de ce collectif, cette décision aura un impact positif, notamment sur la trésorerie de ces entreprises. Elle permettra aussi la reprise des activités de plusieurs petites et moyennes entreprises. Il a dit à Jean-Désiré Kanyama.
L'avantage au niveau de nos sociétés par rapport à ce nouveau décret, c'est que finalement, dans le cas de la SCTP, c'est que rien que le port de Beaume, l'avantage est qu'aujourd'hui, la plupart des véhicules qui venaient de l'Europe ne venaient plus. Maintenant, ces véhicules peuvent venir et ça va rebooster en termes financiers le port de Matadi. Parce que le port de Beaume, en son temps, avant ce décret là qui interdisait, on atteignait le 2 millions de dollars le mois. Avec ce décret, on est descendu jusqu'à 400 000 dollars le mois. Aujourd'hui, avec le nouveau décret qui remet à 20 ans, nous pensons qu'on peut revenir à 2 millions de dollars le mois en termes de recettes au niveau de la ville du port de Beaume. Ça, c'est pour l'ONATRA. En même temps, l'avantage, c'est que la ville de Beaume va renaître. Et finalement, de Matadi aussi, ça va créer des débouchés et je crois que la population va se retrouver en tout cas.
Pour sa part, Joseph Mabanga, opérateur économique et acteur politique du Congo central, s'insurge contre cette décision du gouvernement Madibanga autorisant l'importation de véhicules vieux de plus de 10 ans. Il estime que ces véhicules vont polluer l'environnement et causer de nombreux accidents, il a dit à Berry Franklin Luchaka.
Ce n'est pas en important des véhicules qui viendront polluer l'environnement alors que nous luttons contre les gaz d'effet de serre, nous luttons contre le changement climatique. Et encore, nous luttons contre les accidents. Ce sont des véhicules qui sont déclassés. Ce n'est pas n'importe cela que l'économie va pousser. Non, c'est en faisant une production intérieure. Les ports de Beaume de Matadi n'ont pas été créés parce qu'ils devaient recevoir des véhicules de plus de 20 ans. Ça a été créé parce que la province du Congo central est en fonction agricole et donc produisait des tonnes et des tonnes d'huile de palme, des tonnes et des tonnes de caoutchouc, et il y avait des rails de l'ONATRA qui amenaient vers le port. On va compter à exposer les gens, polluer la nature pour que les gens meurent, parce qu'on a besoin de 2 milliards de francs congolais. Il y a moyen de faire fonctionner le port en rénovant.
Rendons-nous dans la province du Tanganyika où nous apprenons que 3 personnes sont mortes et 2 autres blessées grièvement lors d'une embuscade tendue par la milice présumée Toa samedi dernier. L'attaque est survenue à 45 km sur l'axe Kalemie-Nyunzu. Les autorités provinciales se disent choquées par cette attaque et le ministre provincial de l'Intérieur rassure la population de l'implication des autorités. François-Xavier Mibé.
L'embuscade attribuée à la milice présumée Toa a ciblé une dizaine de véhicules. 5 ont été touchés dans cette attaque. Bilan, 3 morts et plusieurs autres blessés. Baruru Kubika, un opérateur économique dont les véhicules, a été la cible d'attaque. J'étais d'enterrer un des membres de mon équipage sur les 3 blessés. Un mort et 2 autres blessés sont déplorés dans les deuxièmes véhicules sur les lieux d'attaque. Gise 2 corps. À 50 km, nous avons trouvé une position de l'armée. À plus de ces lieux, une autre position des toits. Ils ont exigé 10 000 francs congolais par camion. Pourquoi nous insécuriser sur la voie? Et d'où proviennent les armes que détient la milice Toa? Les autorités provinciales du Tanganyika confirment ce drame. Le ministre provincial de l'Intérieur, Joseph Kilouba.
C'est un acte de coupeur de route.
Est-ce un défi de la milice à l'endroit des efforts que conjuguent les autorités?
On ne peut pas défier l'État. Ceux qui sont attrapés parce que réfractaires aux résolutions du forum ne vont pas terminer leur prison ici. Ils vont être transférés ailleurs.
Cette embuscade tendue aux véhicules est la première attaque du genre à être perpétrée dans la zone depuis la tenue en février dernier du forum de paix. Regroupant-toi et Bantou. Kalemi, François Djavimbe, Radio Kapi.
Du côté de l'Équateur, 2 personnes sont mortes foudroyées et 6 autres blessées. Cela s'est passé mardi soir à Bikoro, cité située à 128 km de Mbandaka. Les victimes sont des élèves d'une même école qui se rendaient au stade pour la demi-finale du tournoi interscolaire, tournoi organisé par la sous-division de l'EPSP en marge de la Journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril. Récit des faits avec Paul-Richard Malengela.
Il s'agit des élèves de l'Institut technique commercial, la seule école secondaire non conventionnée de Bikoro. Centre. Ils quittaient la résidence de leur préfet des études où ils s'étaient préparés pour leur match de demi-finale mardi soir contre l'Institut Lisanga. Mais à mi-chemin vers le stade sous une pluie fine, ces jeunes gens seront surpris par un coup de foudre fatal, indiquent nos sources. 2 des joueurs tombent sous le coup de la décharge électrique et meurent sous les champs. Mais 6 autres élèves, dont 5 joueurs et une fille de l'école, ont été également atteints par des éclats de la foudre. La foule qui voulait s'en prendre au préfet avait d'abord amené un des corps chez lui avant de les conduire tous à l'hôpital général. Les autres blessés ont été aussi transportés à l'hôpital. Ce matin, les sources médicales ont indiqué que leur vie n'était plus en danger. Entre-temps, les corps des 2 victimes ont été récupérés par les familles, mais celles-ci sollicitent l'assistance des autorités pour les funérailles. Vu l'absence de sous-préfet, de l'organisateur du tournoi et de l'administrateur du territoire, tous 2 en mission, le responsable du club des enfants reporter de Bicoro relance un appel aux autorités hiérarchiques. Et suite à cette calamité, la fête de l'enseignement ce 30 avril risque de ne plus avoir une allure festive à Bicoro. Bandaka, Paul Chamalingué, la radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
Et nous démarrons au Nigeria où trois kamikazes se sont fait exploser tôt ce matin à la périphérie de Maïdougouri, grande ville du nord-est du pays, tuant un membre d'une milice d'autodéfense et blessant au moins une dizaine d'autres personnes. Ces attaques surviennent seulement deux jours après une série d'attentats à la bombe autour de cette capitale de l'état du Borno qui avait fait quatre morts parmi les miliciens d'autodéfense engagés dans la lutte contre le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Boko Haram a perdu des larmes territoire face à l'armée, mais intensifie depuis plusieurs mois le nombre d'attaques suicides dans Maïdougouri. En Zambie, la justice a refusé ce mercredi d'abandonner les poursuites pour trahison contre Hakainde Hichilema, le leader de l'opposition emprisonné depuis plus de deux semaines. L'opposant est accusé d'avoir entrepris de renverser par des moyens illégaux le gouvernement du président Lungu à des dates inconnues entre le 10 octobre 2016 et le 8 avril 2017. La loi ne donne pas à cette cour le pouvoir de retirer cette accusation, a déclaré le juge Greenwell Malumani devant un tribunal de Lusaka plein à craquer, rejetant l'abandon des poursuites réclamées par Hichilema. Le magistrat a indiqué que le chef de l'opposition devait adresser cette demande à l'instance compétente, à la haute cour de Lusaka. Le pape se rendra vendredi au Caire pour marquer sa proximité avec la plus grande communauté chrétienne du Moyen-Orient meurtrie par des attaques terroristes. Le souverain pontife veut en même temps tendre la main aux musulmans. J'espère que la visite sera une accolade de consolation et d'encouragement à tous les chrétiens du Moyen-Orient, a déclaré le pape dans un message vidéo transmis mardi aux Égyptiens, soulignant aussi son désir d'apporter une contribution valable au dialogue interreligieux avec le monde de l'islam. Le monde déchiré par la violence aveugle a besoin de paix, d'amour et de miséricorde, a plaidé le souverain pontife. Terminons en Europe où deux cheminots ont été tués et trois autres grièvement blessés dans un accident la nuit dernière, ce qui a entraîné la fermeture provisoire de la principale ligne ferroviaire entre l'Italie et l'Autriche. L'accident est survenu lors des travaux de manutention dans le nord de l'Italie sur la ligne ferroviaire du Brenner, le très fréquenté passage frontalier reliant l'Italie au nord de l'Europe via l'Autriche. Pendant des travaux sur la ligne, les freins d'une machine qui se trouvait sur les rails semblent avoir cédé et celle-ci est allée heurter une autre machine, provoquant une forte explosion.